Nous sommes mardi 13 décembre 2022 et il vient d'être 17h. Vous êtes en direct sur les zones des 52 radios partenaires du studio Kalangu. Au micro, je suis Rukaita Abdraman. Les titres. Ce 13 décembre, cela fait 24 ans que le journaliste burkinabé Norbert Zongo a été assassiné. Depuis lors, c'est des appels à la justice. Moussa Aksar, président de la cellule Norbert Zongo, est à suivre dans ce journal. Les villages de la région de Maradi, frontalier au Nigeria, sont victimes d'attaques armées et de vols de bétail. Un forum sécuritaire vient de se tenir avec toutes les couches socio-professionnelles. La malnutrition chez les enfants a fait son apparition au centre mère et enfants de Dosso. À suivre dans la partie magazine, les efforts des spécialistes pour enrayer le phénomène. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir. Je l'annonçais ce 13 décembre, le monde de la presse africaine commémore les 24 ans de l'assassinat du journaliste d'investigation burkinabé Norbert Zongo. Selon le président de la cellule Norbert Zongo, des avancées significatives ont été enregistrées pour faire la lumière sur l'assassinat du journaliste d'investigation, fondateur et directeur de l'hebdomadaire L'Indépendant au Burkina Faso. Moussa Aksar au micro de Habib Garba.
Même si vous allez au Groenland, les gens savent qui est Norbert Zongo. Il y a eu ces 3-4 dernières années des avancées significatives. Et ces avancées, c'est que depuis 2015, trois éléments du RSP, le régiment de la sécurité présidentielle, ce régiment-là qui a été dissous, ont été inculpés depuis 2015. En 2017, le principal suspect, François Camporé, a été aussi inculpé par la justice française. Mais la défense de François Camporé a fait appel et le dossier se trouve au niveau de la Commission européenne des droits de l'homme. Et nous espérons que, incessamment, la Commission européenne des droits de l'homme va se prononcer et que François Camporé soit traduit devant les tribunaux burkinabés. Tous les journalistes d'investigation par le monde veulent suivre les traces de Norbert Zongo parce que c'est un journaliste émérite qui a eu à soulever beaucoup de lièvres dans son pays.
La suite de ce journal, la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, HACP, en partenariat avec des ONG, ont organisé dimanche 11 décembre à Gabi un forum sur le dialogue multi-acteurs autour de la situation sécuritaire de la région de Maradi. Il s'agit pour les responsables administratifs coutumiers, hommes et femmes de Gabi, de créer un cadre de dialogue sylvo-militaire pour trouver des solutions à l'insécurité qui sévit. Pour Hamza Garba, député, la commune de Dan Issa est victime d'attaques des hommes armés. Il est au micro de Mohamed Mam.
C'est l'Assemblée nationale, à travers les députés de la région du Maradi, qui avait effectivement initié ce forum-là. Pourquoi nous l'avons fait? C'est en fait pour lutter toujours contre cette insécurité qui est en train de sévir dans la bande sud du département de Madarumfa et de Guédarouge. La situation sécuritaire, elle est un peu calme dans certaines communes, mais lorsque vous prenez la commune rurale de Dan Issa, ces derniers temps, elle est vraiment menacée. Il y a une incursion régulière, effectivement, de ces bandits armés qui volent le bétail. Et tout récemment, le 30 novembre, ils étaient dans la commune de Dan Issa et plus précisément dans le groupement appelé le Kandamon, où ils ont pris plus d'une centaine de têtes de bétail et ils ont blessé quelqu'un. On ne peut pas avoir 3 ou 4 jours où ces bandits-là ne pénètrent pas dans la commune rurale de Dan Issa. Nous pensons qu'avec les mesures que les autorités sont en train de prendre, on va venir au bout de cette situation-là.
Créé en janvier 2019, l'orphelinat Wirga Irmatoun, aidez-nous à nous relever, a pour objectif de répondre aux besoins des enfants abandonnés à la maternité, des orphelins et des enfants vivant dans la rue. Avec une capacité d'accueil de 21 enfants, l'orphelinat fait face aujourd'hui à d'énormes difficultés. Madame Diabaté Marietou, fondatrice de l'orphelinat, nous en dit plus au micro de Rabia Mekano.
Dans cet orphelinat, nous accueillons des enfants abandonnés, les enfants en difficulté précaire, si je dis difficulté précaire, c'est-à-dire les enfants qui ont pratiquement perdu l'un des parents et qui n'ont même pas de quoi manger chez eux et qui tendent à aller vers la mendicité ou au banditisme. Ils sont 21. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, on fonctionne avec les bonnes volontés. Sinon, avant, on avait 2 partenaires, et un Belge et un Allemand, mais malheureusement, ils sont rentrés en septembre. Donc, ce qui fait que nous avons vraiment, vraiment des difficultés maintenant à remonter la pente. On a besoin de tout, financier, scolaire, habillement, parce que la période dans laquelle nous sommes, c'est ce qui nous a même permis de savoir qu'il y a d'autres qui souffrent de certaines maladies dont je vous parle aujourd'hui. Nous avons trois qui sont vraiment dans un cas critique au CHU.
Parlons santé à présent. Une délégation du département de la chimiothérapie du Centre national de lutte contre le cancer de Niamey mène depuis hier à Matamé une campagne de dépistage volontaire des cancers du sein et du col de l'utérus. L'objectif visé est de dépister au moins 100 femmes au niveau du district sanitaire. Docteur Diakité Ibrahima, chef du département biochimie au Centre national de lutte contre le cancer de Niamey, au micro de Abou Sarki Saleh.
Les femmes dépistées, bon, il y en a qui ne vont présenter aucun problème particulier. Et là, on leur conseillera le suivi dans l'autopalpation du sein. On va leur donner des conseils pour qu'elles puissent elles-mêmes se faire dépister au moins pour le sein. Et on les informera aussi sur les signes d'alerte sur le cancer du sein et du col et le cancer de façon générale. Celles qui vont présenter des signes de cancer ou des signes de lésions précancéreuses qui peuvent éventuellement se cancériser, nous allons effectivement leur proposer une prise en charge qui pourrait commencer par le centre mère-enfant de Zender et éventuellement se poursuivre à Niamey en cas de besoin. L'objectif affiché, c'est d'avoir pour chaque localité 100 femmes.
Santé toujours, le service de l'hygiène et de l'assainissement de la commune urbaine de Tessawa tire la sonnette d'alarme sur la vente des produits périmés. Le service attire l'attention des populations et commerçants sur le danger de la consommation de ces produits. Abdelaziz Mamandi Mati, chef du service de l'hygiène et de l'assainissement de Tessawa, au micro de Ilia Moumouni.
Ces derniers temps, les commerçants de Tessawa commencent à comprendre l'importance et la valeur de l'article. Parce que au premier temps, les gens ne comprenaient pas vraiment par rapport à la date de fabrication et la date d'expiration. Vraiment, il y a une grande amélioration ces derniers temps. On trouve ça, mais c'est minime comparativement aux périodes antérieures. Je vous donne un exemple. À ma prise de service, la première destruction qu'on avait fait, on avait détruit des produits d'une valeur à peu près de 2 millions. En fin 2021, les produits qu'on avait détruits, c'était des produits de 670 000. L'appel que je vais lancé à l'égard de la population de Tessawa et aux commerçants, c'est de prendre conscience du risque de la consommation de ces produits. Parce que quand on dit qu'un produit est périmé, il y a beaucoup de risques. Il y a les risques d'intoxication alimentaire, il y a les risques de maladies lentes. J'ai dit maladies lentes parce qu'il y a des maladies qui souvent s'est déclarées après avoir consommé le produit, peut-être même des années.
Autre aspect de ce journal, à Tirozérine, dans la région d'Agadez, beaucoup de jeunes diplômés sont au chômage selon la présidente d'une structure de jeunes dénommée Jeunesse Ensemble Nous Pouvons. Infirmière de formation, Mariam Teko estime aujourd'hui que les jeunes doivent se prendre en main et innover pour éviter le chômage. On l'écoute au micro de Ahmed Fellan.
Parmi les problèmes qu'affrontent les jeunes, on a plus de cas de chômage qu'autre chose. Ce n'est pas la force ou les diplômes qui nous font défaut, mais le travail. L'appel que je voudrais lancer, c'est à l'endroit des jeunes. Aujourd'hui, si tu veux quelque chose, tu dois te lever. Le temps est révolu. À cet effet, on doit se battre pour se construire. Ce n'est pas normal qu'on reste dans nos maisons pour manipuler nos téléphones. On est fort, nombreux et on est intelligent. On doit être soudés pour avancer. Le grand problème ici au quartier Carré Sud, c'est l'accès à l'eau potable. Ça fait 10 ans qu'on a ce problème. Chaque mois, il faut engager un talibé pour aller te chercher de l'eau. Toi, tu n'as pas de boulot. Tu as un problème d'accès à l'eau. La chèreté de la vie. Alors, c'est quoi la solution? C'est pourquoi je voudrais attirer l'attention de mes jeunes sœurs. Il ne faut pas forcément attendre un recrutement à la fonction publique. Il faut plutôt se demander en quoi je peux être utile à ma communauté.
À Difa, pour protéger la race Kouri du nom de la vache de la région, le président du conseil régional a pris des mesures pour multiplier cette race de vaches. Korodji Dalla est allé visiter ces vaches qui se trouvent dans le ranch de Sayam de la commune de Gaskeru. On l'écoute au micro de Guidi Abdraman.
Le CM Centre, c'est le seul que nous disposons pour les vaches Kouri. Il faut être attentionné. Sinon, d'ici 1 à 2 ans, nous risquerons de perdre cette race vache Kouri. Et ce n'est pas bon. Le projet a une vocation d'élevage et concerne toute la région. Il sera mis en œuvre un espace pour cultiver la paille. Un système d'arrosage sera installé et la paille qui sera récoltée sera destinée à la vache Kouri. Il va falloir que vous collaboriez. Il y a beaucoup de choses que nous voudrions réaliser pour développer cette race. Que Dieu nous accompagne. campagne. Mobilisez-vous, car cette race, si nous la protégeons, c'est une fierté de notre région. Cette coexistence avec les autres animaux qui rentrent et qui sortent, cela peut permettre d'avoir un métissage. Nous allons tout faire pour faire venir des projets. Il ne reste plus qu'à clôturer l'espace et développer cette race.
Du sport dans ce journal, la 43e édition du Sabre national de lutte traditionnelle se déroulera du 23 décembre au 1er janvier 2023 à Diffa. D'ores et déjà, la région est à pied d'œuvre pour une bonne organisation selon Ali Boubacar Bako, directeur régional de la jeunesse et des sports. Il est au micro de Mani Moussa.
Comme vous le savez, l'arène de Diffa, on a trouvé que c'était vraiment restreint et que vous savez l'engouement que la lutte suscite. C'est pourquoi on a préféré délocaliser pour amener au stade. Au stade, en dehors de la tribune officielle, qui a une très grande capacité, il y a deux tribunes mobiles. Déjà, au stade, la finition, c'est même fini, je veux dire. Puis, il y a le studio, la cabine technique, qui est déjà, elle aussi, en stade de finition, 85-90%, on va dire, actuellement. Toutes les commissions mises en place, que ce soit la commission et accueil hébergement, ils sont à pied d'œuvre, ils sont en train de préparer les sites qui vont accueillir nos invités.
Sport toujours en football, le Maroc jouera la demi-finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre la France demain mercredi 14 décembre. C'est la première fois qu'une équipe africaine de football accède à ce niveau de compétition de l'histoire d'une Coupe du Monde. Voici l'analyse de Lawali Gerba, technicien de football, sur les performances des Lions de l'Atlas qui estime que les Marocains n'ont pas encore dit leur dernier mot. Il est au micro de Soumana Ad Amadou.
Si le Maroc est en demi-finale, ce n'est pas un fait du hasard. C'est une équipe dont la défense est très solide, avec un double rideau qui est difficilement franchissable. Ils sont très efficaces, ils ont de très bons ailiers. C'est une équipe solidaire et très bien soudée. Ils sont très forts offensivement, que ce soit en contre, sur un coup de pied arrêté ou des actions individuelles, parce qu'ils ont des joueurs de qualité. Le match contre la France sera très difficile. Mais l'esprit collectif des Marocains, leur volonté et surtout leur détermination vont leur permettre de tirer leur épingle de jeu. Il ne faut pas que l'équipe de France sous-estime cette équipe parce que l'équipe qui arrive à ce niveau de compétition n'est pas une petite équipe. Et j'espère que le Maroc s'en tirera avec une très belle prestation.
Place à présent à la partie magazine de cette édition. La malnutrition chronique constitue depuis longtemps un problème qui affecte les jeunes enfants de l'Afrique subsaharienne. La région de Dosso n'est pas épargnée par ce problème. Depuis quelques mois, des cas de malnutrition chez les enfants sont observés, suivant ce reportage de Nana Hadiz Hassan. J'ai amené ce bébé pour des soins. Depuis le lendemain de sa naissance, nous avons remarqué qu'il a du mal à se tenir sur ses pieds. Aujourd'hui, il a 3 ans.
Je ne l'ai jamais amené à la peser. Elle n'a aucune vaccination. Et j'ai donc remarqué que sa croissance régressait. Je la trouvais trop petite.
Ces mères d'enfants expriment leur vécu. Un grand nombre d'enfants admis au centre mère enfant de Dosso ces derniers mois souffrent de malnutrition, une pathologie due à un manque de vitamines selon les spécialistes. Dr Souaiba, nutritionniste.
Le nombre d'enfants que nous enregistrons dépend en fait des saisons et de la disponibilité des aliments. Les cas sont donc plus nombreux pendant les périodes de soudure. Nous pouvons enregistrer 80 voire 90 cas. Mais pendant les périodes où les aliments sont disponibles, nous pouvons enregistrer 30 à 40 cas. Et la plupart d'entre eux souffrent de malnutrition. Plusieurs raisons peuvent provoquer la malnutrition chez un enfant, dont le manque de moyens pour un parent d'acheter des aliments riches pour son enfant. Mais la plus grande raison, c'est surtout le manque d'informations. Parce que parfois, les parents disposent bien d'aliments riches, mais ne savent pas comment les préparer pour l'enfant.
Le taux de malnutrition ne fait que croître malgré les efforts du gouvernement pour réduire celui-ci. Le manque de médicaments est aussi une des causes, déclare Dr Souaiba.
Les grandes difficultés que nous rencontrons, c'est surtout la rupture des intrants. Nous pouvons recevoir des cas d'enfants enfants malnutris et n'est pas disposé d'intrants en stock. Il faut surtout beaucoup sensibiliser les parents sur comment préparer le mil pour son enfant. Le sésame, par exemple, c'est très riche en protéines. Et le moringa aussi, qu'on trouve partout au Niger, c'est très riche en nutriments pour le bon développement de l'enfant.
Les spécialistes de la santé nutritionnelle conseillent une bonne planification et la variation des repas des enfants pour réduire le taux de malnutrition au Niger.
C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie.